Bon, je vois plus, il n'y a plus personne vraiment qui va, où ça va arriver, donc je vais commencer pour ceux qui sont déjà là. Donc, en fait, j'avais l'intention déjà de venir à la convention depuis un bon bout de temps, et il se trouve que je me suis rendu compte que la sortie de mon nouveau roman tombait pile la semaine de la convention, donc j'ai obtenu, enfin, l'organisation m'a donné l'occasion de pouvoir en profiter pour présenter mon roman. Voilà. Donc il s'appelle Jardin d'hiver, paru chez donc La Talente. C'est je ne sais plus combientième de roman, je crois que c'est 8e, je crois. Quelque chose comme ça. Alors juste pour expliquer d'où vient l'idée, c'est que j'ai écrit une nouvelle qui n'est pas encore publiée dans le même univers. C'est une. Et j'ai voulu utiliser ensuite cet univers pour en faire un roman. Donc la nouvelle, elle se situe après les événements du roman. Et j'ai donc raconté toute l'histoire. Quels étaient les éléments importants pour ce que j'ai voulu faire? C'est l'idée de base. Au départ, je voulais faire vraiment un roman d'aventure parce que comme j'avais fait la trilogie du Melkin, Space Hop, un truc très. Voilà, trois tomes sur une histoire sur 30 ans, c'était assez vaste, donc je voulais un peu me reposer. Et puis donc, je voulais faire juste allez, un roman d'aventure, voilà, juste comme ça. Et puis, et j'avais juste comme petit principe qui était, je voulais que chaque camp, donc il y avait deux camps, un camp d'ingénieurs et un camp d'écologistes et des éco-terroristes, et que chaque camp développe une arme ultime, et que le jeu étant qu'ils devaient utiliser cette arme ultime contre leur propre camp. Et c'était finalement la seule façon d'obtenir la paix. Donc c'était ça le jeu que je m'étais imposé au départ. Une fois ceci posé, quand j'ai construit mon univers, construit mon histoire, les choses se sont compliquées parce que j'ai fait rentrer en ligne de compte des machines, des intelligences artificielles, la question de la singularité, de ce genre de choses. Donc, d'un roman qui était simplement un roman d'aventure, ça a commencé à devenir beaucoup plus compliqué. Donc voilà le socle à l'origine. Donc maintenant, le mieux c'est de décrire quel est l'univers dans lequel l'histoire se déroule. Alors, ça se déroule en Europe, dans le futur. C'est une Europe qui vit un conflit depuis une vingtaine d'années entre donc des ingénieurs, c'est sous la bannière de ce qui s'appelle le consortium, dont leur capitale, mégapole, réunit Londres, Bruxelles, Paris. Hein, il faut savoir qu'il y a une sorte de pont. Au-dessus de la Manche, et qui pont habité avec des immeubles, etc. Et donc en fait, on passe, hein? Voilà, et on passe sous le tunnel, en fait, et quand on doit passer de la mer du Nord vers la Manche, on passe sur un tunnel sur la Manche. Bravo.
J'ai quand même mal compris parce qu'il me semblait que l'Angleterre était quasiment hors du camp européen.
Ah oui, là, elle y est. Et donc, l'idée, donc, on a ces ingénieurs qui sont en guerre contre des écologistes, des éco-terroristes, qui sont sous le terroristes. C'est-à-dire que leur première action, ça a été de faire sauter une centrale nucléaire. Donc, ils ont aussi fait exploser un centre de recherche à Saclay. Ils ont réussi à faire. Comment exploser aussi tout le couloir pétrochimique de Pont-de-Clé, ce qui fait que Grenoble, toute sa région, a été sous. Voilà, donc ce genre de choses. Donc voilà, ce n'est pas des résistants, c'est vraiment plus fort que ça. Et donc tous ces gens-là, donc les écologistes, au fur et à mesure de la guerre, se sont retrouvés vers l'Europe de l'Est. Ou en Scandinavie. Donc, ils sont forts en Scandinavie, forts en Russie, et leur centre, c'est l'Ukraine. Donc, voilà pour placer ça. Qu'est-ce qui se passe-t-il autour? Eh bien, autour, finalement, les États-Unis ou la Chine restent neutres, ne sont pas intervenus. Et en fait, ils profitent de l'occasion de cette guerre, parce que cette guerre, donc, l'autre élément important, c'est qu'il y a eu le réchauffement climatique, donc la montée des eaux. Donc, on voit durant le roman l'effet de la montée des eaux sur le paysage européen. Il y a des changements importants. Par exemple, le Havre se retrouve submergé. Il n'y a plus que la tour phare du Havre qui subsiste. Hein. On voit des tas de choses comme ça. Et donc, en plus du fait des conflits, l'Europe n'a plus accès au pétrole. Il y a des tas de choses qui sont arrêtées. Plus d'avions, ce genre de choses. Donc, les Européens ont développé d'autres technologies pour se développer. Et en fait, il y a des contrebandiers en Europe qui prennent ces technologies pour les diffuser dans le reste du monde. Et donc, ça arrange tout le monde que l'Europe ait fait finalement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Ça permet à tout le monde de vivre comme ils ont l'habitude. Donc, personne n'a intérêt à ce que le conflit trop s'arrête. Voilà pour expliquer le contexte géopolitique. Donc, l'autre élément que je voulais, qui m'était important dans ce roman, c'est que je voulais une guerre, sauf qu'il n'y a pas de fusils, pas d'épées, pas ce genre de choses. Donc les camps s'affrontent de manière différente, c'est-à-dire que les ingénieurs ont développé des daemons, c'est-à-dire ce sont des animaux, machines, des animaux qui ont des vraies apparences d'animaux. Il y a des chats, des chiens, des ours, des crocodiles, des serpents, tout ce que vous voulez. Mais qui ont une composante électronique et mécanique et qui peuvent se transformer en armes, lance-missiles, tout ce que vous voulez, bombes et compagnie. Hein. Donc, ça, ce sont les démons des ingénieurs. Et les éco-terroristes, eux, ont développé des arbres, enfin des biopuces qui peuvent transformer les arbres en armes. C'est-à-dire des fleurs peuvent envoyer leur pétale pour transpercer du métal. Vous avez des sapins qui peuvent envoyer leurs aiguilles pour transpercer des gens, ce genre de choses. Donc on n'est pas dans le monde vert d'Aldis, hein, c'est vraiment de la mécanisation. Donc vous voyez bien qu'il y a une opposition entre les deux camps, mais en fait les ingénieurs ont une informatique très biologique. Et les écologistes ont aussi quelque chose de très mécanique ou de très électronique. Donc il n'y a pas vraiment, c'est une opposition idéologique, mais en fait, dans les faits, dans le concret, il n'y a pas vraiment une si grande opposition que ça. Alors, une fois que j'ai posé ces éléments, qui sont les éléments essentiels du monde, il y a donc l'histoire. Pour simplifier, au début, on est en Poméranie. On suit une bande de contrebandiers qui s'occupent comme des charognards, de dépecer des scaphandres suite à une défaite des ingénieurs. Une défaite un peu incompréhensible, mais une défaite. Et parmi, il n'y a que des morts, mais il y a un survivant qui est amnésique, mais qui apparemment n'était pas un militaire. Alors les contrebandiers n'aiment pas vraiment les gens inconnus, donc il y a une petite hésitation, mais finalement, ils vont le transporter avec lui parce qu'il a quelque chose de particulier, il y avait une substance sur le visage, et donc ils veulent en savoir plus parce que ça a des importances pour leur boulot. Donc ils vont aller chercher l'explication de ce qui est arrivé à cette personne qui s'appelle. Alors, quand il n'a pas de nom puisqu'il est amnésique au début, et donc ils vont l'appeler au début Innocent. Et Innocent, donc ils vont aller vers la seule zone neutre en Europe, qui est la troisième zone de Berlin. C'est-à-dire que Berlin est divisé en trois. Il y a une zone de Berlin qui est le Berlin de la forêt. Hein, il y a un parc à Berlin qui est la zone des écologistes. Et l'autre zone est une zone d'ingénieurs et il y a une zone neutre. Et donc là, il y a des chercheurs qui peuvent expliquer ce qui se passe. Et en fait, l'amnésique a une substance, a quelque chose dans son cerveau. Et en fait, il va comprendre que ça lui permet de communiquer de manière enfin, de pouvoir obtenir les informations qui sont dans les daemons. Parce que ces machines, en fait, il y a à la fois un aspect de programmation en dur, de leur comportement animal, mais aussi ça stocke des informations. Donc, il peut accéder à ça. C'est sa seule particularité. Et en fait, on va s'apercevoir, il va recouvrer la mémoire durant ce séjour à Berlin, et en fait, il va savoir que c'est un militaire. Et du consortium. Mais qu'il n'a jamais été vraiment pour les exactions de que font ces ingénieurs aussi sur certains territoires. Donc ensuite, on suit en fait comment ces contrebandiers veulent s'échapper du bordel. Et donc on suit en Europe leur parcours en Europe, donc on suit leur parcours en Scandinavie. Donc imaginez qu'en Scandinavie, les ingénieurs consortium ont développé des hydres. Il y a l'hydre d'Elseneur qui permet de vomir des produits toxiques, du feu sur la Suède, sur le Malmö, etc. Donc vous voyez, on est vraiment dans du gros, la grosse destruction. Et donc ils vont aller vers un camp neutre qui s'appelle le Sanctuaire, qui est à Reykjavik, en Islande, pour ensuite retourner vers le mégapole, vers Paris, mais Paris ne s'appelle pas Paris. Paris s'appelle la zone sud-est. Et là, c'est une chose que j'ai vraiment voulu m'amuser avec ça, c'est j'ai voulu reconstruire Paris, mais pas un Paris de musée. C'est-à-dire que j'ai utilisé, ça s'appelle Rêver Paris, je crois, de Schuiten et Peters. Et donc, ils avaient fait un livre où ils avaient rassemblé tous les projets architecturaux autour de Paris. Et donc, j'ai réutilisé tous ces projets. Donc, on peut les revoir, les tours Perret, les grandes tours, des projets de Corbusier. J'ai fait le 21e arrondissement à Paris, qui est un arrondissement, en fait, en suspension, c'est-à-dire qu'il est en l'air, il est dans le ciel. Ça a été un vrai projet architectural des années 70. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, les gens qui habitent Paris, je dis, nous ne sommes pas dans un musée, c'est Paris est en fait une ville tournée vers le futur. Non, justement, pas visualisé, parce que c'est quand même le végétal, ça reste le danger. On se méfie du végétal dans ce monde, chez les ingénieurs, puisque ça peut être utilisé, détourné par les écotouristes pour en faire des armes. Donc il y a quand même toujours une méfiance, mais... Par exemple, à un moment, le personnage d'Innocent dit « Ah ben moi, quand j'étais plus jeune, j'ai milité pour détruire la Tour Triangle. » Pour ceux qui connaissent Paris, le projet de la Tour Triangle. Pourquoi ? Parce que c'était une petite tour vieillotte, alors que maintenant, on fait des choses beaucoup plus... Donc Paris est devenue vraiment une ville très minérale, très vraiment tournée vers le futur. J'ai voulu vraiment casser... On a un métro aérien, Les Halles, c'est une longue barre d'immeubles et de centres commerciaux, ce genre de choses. Et là, on se rend compte qu'il s'est passé quelque chose, quand Innocent est parti, il s'est passé quelque chose dans le consortium, c'est-à-dire que le consortium a développé une intelligence artificielle qui s'appelle Sublime, qui est une intelligence artificielle qui est centrale pour le consortium. C'est une intelligence artificielle, qui n'a pas de langage. Elle est très active, mais on peut communiquer avec elle sur le plan de la sensorialité. C'est la seule manière de communiquer avec elle, mais il n'y a pas de langage, elle ne peut pas discuter avec vous par le langage. Et on s'est aperçu que, l'angoisse, c'est que cette intelligence artificielle a franchi le seuil de la conscience. Donc il commence à avoir un peu d'une panique chez certains ingénieurs. Et l'idée, je me suis intéressé à ça, sur cette peur de l'intelligence artificielle consciente, donc de l'intelligence artificielle forte, hein, pour différencier des intelligences artificielles faibles. C'est-à-dire, on a peur, pourquoi on a peur finalement de l'intelligence artificielle forte ? Pas parce qu'elle serait méchante ou autre, mais je dis c'est que c'est un peu comme les parents qui ont peur que les enfants les jugent. Je pense que, et là, c'est la peur des ingénieurs, c'est que comme ils ont fait des tas d'exactions du fait de la guerre, hein, ils ont déporté des populations et des tas de choses, les ingénieurs ont essayé de protéger l'intelligence artificielle de leurs exactions. Ils ont peur que l'intelligence artificielle finisse par les juger. Et en fait, il y a toute cette idée que, moi, mon idée, c'est que les machines, j'ai voulu montrer un monde où les machines, c'est en fait les seules choses dans lesquelles les humains peuvent avoir confiance. Parce que les humains, dans tout ce roman, les humains n'arrêtent pas de se mentir, de se tromper, jouent double jeu. En fait, on ne peut jamais avoir confiance dans un humain. Et c'est vrai. Alors que les machines, c'est les seules choses dans lesquelles on peut avoir confiance. À tel point qu'à un moment dans le livre, tous ces ingénieurs donc, ont une relation avec leur démon, qui est une relation vraiment essentielle de confiance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas pirater un démon. Il y a vraiment quelque chose de fondamental de la relation du propriétaire avec son animal. Et donc, à un moment... Mais donc, tout se passe avec des mots de passe et autre chose. Et donc, à un moment, on dit à ces ingénieurs, pour sauver la ville, il va falloir que vous donniez le mot de passe de vos animaux. Et donc, ils savent, tous ces ingénieurs militaires savent que c'est la seule chose qui peuvent sauver leur ville. Mais ils estiment que la relation avec leur animal est tellement importante, cette confiance, c'est la seule chose dans laquelle ils peuvent avoir confiance, qu'ils vont refuser. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de vraiment essentiel dans ce roman, la relation des ingénieurs avec leurs animaux-machines. Et ce que je veux montrer, en fait, c'est un univers de l'hybridation, hein, c'est-à-dire que vous avez des cyborgs, donc mécaniques, humains, vous avez végétal, mécanique, vous avez biologique, animal, mécanique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans de la fusion de différents. Vraiment, c'est un monde de l'hybridation et aussi comment terminer une guerre. Parce que vous avez un conflit de 20 ans, comment arriver à finir cette guerre, c'est-à-dire comment permettre que les gens se pardonnent. Et ça, c'est ça l'essentiel, parce que quand des conflits sont aussi longs, comment arriver au pardon? Ça, c'est quelque chose qui est très important, qui est très important pour les personnages. Donc voilà le cœur du livre, du sujet, si j'ose dire. Donc, il faut voir que vraiment, l'aspect écologique, la guerre entre les ingénieurs et les écoteuristes, c'est un aspect. Mais vous voyez que j'ai essayé de faire quelque chose où, au début, il n'y a pas vraiment d'antagoniste. C'est-à-dire qu'on n'y a pas de grand méchant que l'on peut identifier. En fait, le vrai véritable antagoniste, il n'arrive qu'à la toute fin. Mais donc, il n'y a pas vraiment. Je montre les deux camps. Je vois que les deux camps sont aussi pourris l'un que l'autre. Hein. Faut bien être clair. Hein. Que ce soit les ingénieurs ou les écologistes, il n'y en a aucun qui. C'est que des gens qui ont des stratégies de duperie, de choses comme ça. Mais en même temps, comment arriver à sortir de ce conflit qui a duré 20 ans suite à un crime qui est le début du roman, qui s'appelle le crime du siècle. Donc, et même aussi, pour terminer, j'ai essayé aussi de m'interroger sur le rapport entre la nature et l'artificiel. Qu'est-ce qui est artificiel, sachant que les cultures, c'est aussi un ajout, ce que je considère comme un ajout artificiel à notre nature humaine. C'est ce qu'on a construit au fil, c'est ce que chaque humain a construit. Donc, essayer de ça, sachant que, par exemple, les écologistes ont développé une arme particulière qu'ils appellent l'épée. Et l'épée, c'est un individu qui a été éduqué ou construit, finalement, pour être un tueur sans conscience. Et en fait, on se rend compte que c'est parce qu'on lui a enlevé toutes les couches de culture, tout ce qui est de relations humaines, tout ce qui est de. Il est juste lié à sa nature animale pure qu'il en est un tueur. Donc finalement, ce qui sauve, c'est toutes ces couches artificielles de culture qui nous empêchent d'être inhumains, finalement, d'être animaux ou prédateurs. Voilà, ce genre de choses. Enfin voilà, de toute façon, je ne peux pas raconter l'histoire, je peux pas. Hein, bien sûr. Mais j'essayais juste de présenter le monde et les différents éléments qui sont dans le monde. Voilà, le livre est en vente librairie, tout ça, je peux dédicacer. Voilà. Bah, oui, je suis obligé de construire. Oui, je suis obligé parce que le premier chapitre. Non, non, non. Je suis obligé. D'une part, parce qu'en fait, à l'origine du projet, il y a une nouvelle qui se situe 10 ans après le roman. Donc, déjà, j'ai des éléments que je suis obligé de construire, donc de rétablir. Et puis après, comme il y a des éléments de l'histoire qui obligent à étudier ce qui se passe en dehors de l'Europe, donc je suis obligé de réfléchir à ce qui se passe dans les autres continents. Par exemple, l'Afrique est en paix. Voilà, ce genre de choses, parce qu'ils ont bénéficié, eux, du fait de réchauffement, ils ont réussi à développer l'énergie solaire et ça marche super pour eux, donc ils n'ont pas de problème d'énergie, voilà. Donc, tout ça s'est développé différemment, donc c'est ce genre de choses, je suis obligé d'établir, mais après, j'ai pas avant de chronologie avant qui explique à partir du moment. Voilà, non, exactement. Oui, non, non, c'est pas possible parce que ce qui m'intéresse, c'est la situation et pas. Sinon, de toute façon, je ne crois pas que ça soit possible de passer de l'un à l'autre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça parle du réchauffement climatique, Et puis les écoterroristes, c'est des choses qui existent déjà, surtout aux États-Unis. Les groupes violents étaient pas en France. Donc, oui, c'est ce genre de choses. Donc, je transpose ce genre de choses en Europe. Ce qui m'intéressait aussi, c'est de se poser la question si est-ce qu'il est possible d'y avoir un avenir en Europe? Comment? Alors, je connais bien Kurban, mais oui, c'est pas du tout la même approche que le Marcom. Non, non, c'est vraiment très. C'est vraiment un truc sur des ingénieurs, déjà, et puisqu'il n'y a pas vraiment d'économie, puisqu'ils sont en auto. Enfin, ils développent d'autres solutions. Juste pour dire une chose qui va intéresser pour les références SF, à un moment, ils passent du côté de Giverny. Et là, ils ont des champs. Ils ont des champs qui forment à la fois des éoliennes et du solaire. Du solaire et éolien. Et j'ai appelé ça des champs solariens. Et en fait, c'est des champs de choses rouges. Donc, pour ceux qui connaissent Giverny, donc avec la peinture, voilà, c'est des champs rouges. Donc, voilà. Mais. J'ai juste le terme solarien, solaire et éolien. Voilà, c'était aussi la petite touche SN. Oui, bien sûr, j'y ai pensé. Oui. Mais alors, on a des démons, vraiment, il y a à la fois des petits démons, mais aussi des grands, du style les hydres, qui sont des trucs gigantesques, des araignées, on a des kraken ou des choses comme ça. C'est dans plusieurs, il y a des mastodontes, des chimères, et puis il y a des tas de démons qu'on voit parce que je ne vous ai pas parlé, le titre, Jardin d'hiver. Voilà. Et en fait, c'est le nom de l'une de l'arme. Du consortium, de l'arme ultime du consortium. Et il y a un vrai jardin. Mais en fait, l'un des éléments importants, c'est qu'on ne sait pas vraiment très vite ce que c'est exactement. C'est un vrai secret. C'est-à-dire, il y a une volonté d'une part de l'ingénieur qui est le père du héros, que ce soit caché, que les gens sachent que c'est une arme, ne sachent pas, parce qu'en fait, il a détourné l'arme pour en faire quelque chose qui est un aboutissement de ce qu'est une machine. Pour aller au-delà de quelque chose qui doit être merveilleux et qui est le contraire de l'arme ultime. Mais donc pour ça, il doit le cacher.
En tout cas, c'est un très joli titre
Ah ben.
pour moi. La couverture est splendide et rien qu'en voyant l'objet
Ah ben. Et alors avec Aurélien Polis, moi, que j'adorais la couverture, c'est que pour moi, c'est ce que je fais là de vous résumer le roman, c'est quasiment impossible parce que je sais qu'il y a plein de choses, etc. Mais lui, Aurélien Polis, avec son illustration. Le travail qu'il a fait, il a réussi à résumer en une image tout ce que je peux vous raconter. Donc, c'est ça que j'apprécie énormément dans son illustration, c'est qu'il réussit à faire ce que je suis incapable de faire vraiment. Je suis obligé d'aller dans des tas de directions. Donc, c'est pour ça que c'est mon meilleur vendeur, cette couverture, parce que c'est vraiment l'essence même du sujet, sans que j'aie besoin d'expliquer. Bah, normalement, il est prévu que j'arrive à publier la nouvelle qui est à l'origine du roman. Ça, c'est prévu, mais j'attends que le roman soit sorti. Je le fais dans le sens inverse. Pour que, voilà. Mais sinon,
Ça joindra le roman à la nouvelle?
oui, on verra ce qui se passe après. Parce que, ça met en scène le couple. Dans le roman, il y a un couple donc de Innocent et d'une fille qui s'appelle Laurée, qui est phytogéographe. Parce que pour ces contrebandiers, ce qui est important, c'est de pouvoir identifier les plantes et pouvoir identifier d'où elles viennent pour savoir quelle transformation d'armes elles peuvent devenir. Donc pour ça, tout contrebandier a un phytogéographe qui est capable d'analyser les plantes et de pouvoir dire ça va se transformer en lance-missile, ça en rayon, etc. etc. Donc. Donc voilà le. Et donc ce couple, et on sait ce qui se passe après la fin du roman, sachant qu'il y a encore pas mal de choses.
Quand tu as écrit la nouvelle, tu pensais faire un roman après?
Ah non, non, la nouvelle, j'ai vraiment construite, c'était l'idée, la nouvelle, c'est la relation entre un arbre et une famille. Et donc, lié à cette guerre, ce qui s'est passé du fait que les équatoristes avaient voulu utiliser l'arme, c'était ça la base. Et puis, ce que je voulais faire, le petit gag que je voulais faire, c'était de dire cette phrase, parce que donc on a un personnage qui est un informaticien dans ce monde, sachant que l'informatique dans ce monde est très biologique, hein, c'est pas une informatique, c'est pas des lignes de code classiques. Et donc, il se baladait dans la région de Grenoble. Et l'idée, c'était, quand on est un informaticien, il faut être bon marcheur. De casser le cliché, donc les informaticiens, ce sont des gens qui marchent, parce que comme c'est après la guerre, on ne peut pas trop aller voler, parce que y a des plantes encore actives qui peuvent vous dézinguer si vous voulez trop près. Donc parfois, il est plus prudent de marcher. Donc j'ai commencé ce texte, donc il est, et puis après. Je dis, mais je vais raconter pourquoi on a tout ça et cette relation du personnage qui est le début avec, voilà, avec les plantes, etc.
L'auteur de science-fiction qui t'a le plus influencé.
Pour ce roman, pour
d'une manière globale.
Ah, d'une manière globale. Moi, il y a deux auteurs qui, mais Ursula Le Guin, qui est vraiment moi l'auteur. Dans l'aspect anthropologique, d'études de mœurs ou autres. Et puis l'autre, mais ça c'était plutôt lié au Melkin, c'était Ian Banks, le cycle de la culture, d'imaginer des utopies, de ce genre de choses. Dans mes romans, il y a toujours une composante utopique et de réflexion sur voilà, sur ce qu'est la société, ce genre de choses. Donc ça, c'est les éléments qui sont vraiment. Voilà, c'est ce que je peux identifier de plus facile, spontanément, c'est ce que je peux dire. Oui. Alors, je suis en train de réfléchir, alors c'est vraiment le tout début, de continuer, parce qu'en fait, j'ai écrit pas mal de nouvelles sur les intelligences artificielles. Et j'ai tourné autour de ce thème, de la relation entre l'intelligence artificielle et les sensations, le sensoriel. Donc, et là, avec une nouvelle et puis avec ce roman, j'ai cerné le truc. Donc, j'ai l'idée d'un roman qui va encore plus loin dans cette thématique avec ces intelligences artificielles, d'intelligence artificielle qui aurait finalement développé dans le futur. Alors, ça serait plutôt sous l'angle du thriller, mais d'intelligence artificielle qui aurait développé une sorte d'espace public. Qui n'existe plus, que les humains ont perdu parce qu'ils sont divisés en communautés, il n'y a plus cette notion d'espace public, alors que les intelligences artificielles ont développé cet espace public et réfléchissent au bien, au mal, à ce qui est le bien pour l'humanité aussi. Alors, ah oui, juste, si, il y a quand même un truc que je dois dire, parce que je parle de machines et de robots, mais j'ai pensé quand même à Asimov. Mes machines, mes démons, n'ont pas de loi. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Ça, c'est extrêmement important. Et même dans le roman, à un moment, j'ai des machines, des essais de machines, à qui les ingénieurs avaient peur qu'elles deviennent folles, et donc ont mis en place des lois pour éviter des lois. Et en fait, elles sont devenues schizophrènes, parce que comme elles ne peuvent pas s'adapter à la situation, donc voilà, il y a quand même aussi une référence à Asimov. Voilà, donc. Même si voilà, j'utilise tout ce qui est. Voilà, je ne nie pas tout ce qui a été fait avant, mais en montrant autre chose. Depuis mes 12-13 ans, je raconte souvent que le premier livre de science-fiction que j'ai lu, ça m'a été offert par une amie de mon père, c'est de la collection donc Miss Soleil, c'était Fahrenheit 451 et très vite aussi les Chroniques martiennes. Donc voilà, c'est les premiers trucs. Et ensuite, l'autre chose importante, c'est que j'ai fait du jeu de rôle dans les années 80 et je lisais la revue qui s'appelait Casus Belli, dans laquelle Roland Wagner faisait ses chroniques. Donc toute ma culture de science-fiction, je l'ai faite grâce aux chroniques de Roland, où je choisissais. Et donc parfois, évidemment, le problème, c'est que le libraire n'avait pas, donc où la bibliothèque n'avait pas. Donc parfois, je devais aller à Paris.
C'est bien tombé parce qu'à mon époque,
Oui. Voilà, donc c'est grâce à ça que j'ai pu constituer ma. Puis en plus, même mes copains n'avaient pas d'accès à ces mêmes sources, donc j'étais la ressource pour savoir quels étaient les livres à lire, ce genre de choses. Donc, grâce à Roland. Oh là!
J'ai commencé avec lui, moi.
Ah bah oui. Bah, Je dirais que moi, ce que je retiens de Jules Verne, c'est... j'avais eu l'occasion de lire quelque chose sur les critiques de Jules Verne. L'apport pour moi essentiel de Jules Verne, et c'est aussi pour ça que, par exemple, la religion... Enfin, il y a un abbé qui avait critiqué Jules Verne, qui n'avait pas particulièrement recensé ce qu'il y avait de dérangeant chez Jules Verne, c'est-à-dire que tous les personnages ne se sortent des situations que par leur raisonnement. C'est-à-dire que la providence n'intervient jamais chez Jules Verne. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important dans la science-fiction, c'est que c'est pas que le hasard n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de force, il n'y a que juste la force humaine de nos décisions qui font le bien ou le mal. Donc ça, c'est l'origine chez Jules Verne, plus l'aspect d'ingénieur ou autre, mais je ne suis pas un forcené lecteur de Jules Verne, mais ce genre de choses m'intéresse.
C'était formateur pour nous à l'époque.
Oui. Voilà, oui.
C'est presque rien.
Vous avez vu là
Alors, j'ai l'ouvrage, enfin le grand album, oui, mais j'ai pas pu, j'avais pas le temps de voir l'expo, mais.
Toutes les photos végétalisées, les ports végétalisés.
Oui. Mais c'est intéressant de voir, par exemple, moi j'avais été étonné de voir que. Dans les années 1880, on avait imaginé une pyramide dans le Louvre. Donc, quand ça a été fait, ça avait été déjà inventé, mais c'était une pyramide plutôt de ce type aztèque. Hein. C'était pas, mais il y avait une vraie pyramide envisagée. C'est intéressant, tous ces projets, l'idée d'avoir des ponts roulants sur les étages des immeubles, ce genre de choses. Donc,
les habitations, comme autrefois.
Ouais. Et donc, c'est vraiment, vraiment passionnant de voir ce qu'on imaginait pour le Paris du futur et d'éviter le Paris musée, quoi. C'était intéressant. Et j'ai même repris, alors si l'idée chez Schuiten et Peters qu'on voit, c'est la tour Eiffel avec, une image très belle, je trouve, avec des grands oriflammes, enfin, on peut monter et voir des tours pour regarder la tour Eiffel. Donc, j'ai réutilisé l'illustration, enfin, j'ai décrit l'illustration pour vraiment qu'on voit d'où vient la référence, pour rendre hommage quand même au travail qui a été fait.
Et tu as l'intention d'écrire encore d'autres romans
Oh oui. Ça,
Nombreux,
je ne sais pas, mais j'ai toujours deux romans d'avance. Donc,
D'accord, pas mal.
Oui, oui. Et puis aussi, ce que j'ai intention aussi, comme j'ai écrit pas mal de nouvelles, comment ? Ah non, 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 non. Ah oui, non, non.
Tu aurais un titre à me livrer en exclu ?
Alors.
Si vous me payez très très cher, je vous donne le titre.
Voilà. Alors, comme on doit rentrer, que c'est les fins de vacances, donc il faudra demander à Audrey pour le titre. Ça dépend, mais là en plus, le problème c'est que Jardin d'hiver, j'ai dû couper parce que j'ai eu d'autres projets, donc c'était un peu compliqué. Mais en général, il me faut beaucoup de. Ça mûrisse. Tous mes romans, il faut plus d'un an pour mûrir. Ça mûrisse, faut. Parce qu'en fait, je travaille en. Je vais lire un truc. Là, je lis des essais sur les machines, sur le rapport. Sur les machines sociales empathiques. L'empathie des robots, ce genre de choses. Donc ça, c'est. Je lis des essais là-dessus. Comme Paul Melkin, j'avais lu des essais sur Internet, etc. Et puis, je les lis, puis ensuite, il faut les oublier. Parce que l'idée, ce n'est pas de faire un essai, c'est de faire un récit, une narration, voilà, avec des personnages. Donc, mais il faut que ça mûrisse, ça travaille dans l'arrière-plan. Et donc, effectivement, il faut vraiment longtemps. Et puis, je vais regarder des films. En fait, j'ai toute une période où, en fait, je m'intéressais à des tas de choses. Je me dis, ça peut me servir. Et une fois que j'ai tout ça, je peux démarrer. Même si là, sur le prochain roman, j'ai déjà... Parce que j'ai eu l'idée des premières phrases, de la première scène. Donc, le prochain roman, c'est un peu différent parce que je veux faire une sorte de fix-up. Donc, plusieurs nouvelles. Donc, je peux peut-être fonctionner... Je ne sais pas encore, je vais inaugurer un truc. Mais comme je suis à la base auteur de nouvelles, et qu'en fait, c'est une réflexion que m'avait faite Joël Vintrebert lors de mon premier roman « Structura Maxima », que j'écris mon roman comme une succession de nouvelles. C'est-à-dire que chaque chapitre a un fonctionnement de nouvelles. Donc là, histoire d'être plus honnête d'une certaine manière, je vais construire ce roman avec une suite de nouvelles, avec des personnages différents, ce genre de, qui se répond. Non, quand même pas aussi ambitieux que ça, mais non, vraiment, non, parce que ça va se dérouler sur une durée plus courte, pas sur des années, hein, donc, mais on aura plusieurs histoires, une sorte de feuilleton, sauf que le point de vue central est toujours différent. Donc, voilà, donc ce genre, c'est pour l'instant le projet que j'ai, mais là j'en parle, là c'est vraiment tellement vague, ça peut encore changer, donc je voudrais faire ça, mais c'est pas encore.
Quelles sont tes relations avec les éditeurs ?
Alors, avec la Talente, excellente. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que. Alors. Pour raconter mon histoire, c'est-à-dire que j'ai été publié, la première fois que j'ai été publié, c'était par Jacques Chambon chez Collection Imagine, chez Flammarion. Sauf que, pas eu de chance, c'est-à-dire que le mois de la sortie de mon roman, Jacques Chambon est mort d'une crise cardiaque, donc, et que le successeur était là plutôt pour fermer la collection. D'ailleurs, mon roman est le dernier de la collection, à quelque chose près, je crois. Donc, voilà. Et puis après, enfin, c'était plus compliqué. J'avais pas pensé à soumettre le. J'avais un roman court, fini, mais j'avais pas pensé à soumettre à la Talente. Donc il y a eu. En plus, le gars qui était chez Flammarion a fait traîner. Enfin, bon, bref, c'est l'histoire d'éditeur. Bon, après, je n'ai pas développé. De toute façon, ces gens-là sont partis, donc c'est plus. Voilà, c'est pas la peine de gloser là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, au Salon du Livre, je rencontre Xavier Mauméjean. Et qui se dit, mais tiens, ça fait longtemps, pourquoi tu publies plus, etc. Bon, je lui explique l'histoire. Et puis je dis, bah, j'ai un manuscrit. Et lui, il faisait cette collection, c'était au Pré-au-Clair. Voilà. Il me dit, bah, envoie-le-moi, je te donnerai mon avis, peut-être que je peux le publier. Alors il l'a lu assez vite, il ne pouvait pas me le publier parce que ce n'était pas du young adult, hein, c'est ce qu'il voulait faire. Mais soumets-le à la Talente. Donc la semaine d'après, je l'ai soumis à la Talente et 15 jours après, j'ai eu la réponse. Et voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et après, vraiment, moi, avec la Talente, ça se passe vraiment très bien. J'ai un vrai travail d'éditeur, c'est-à-dire de discussion, de comment transformer le roman pour l'améliorer, de choix, même si je suis assez libre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se passe très, très bien. J'ai pas de soucis. Mon éditrice est une très bonne amie, mais ce que j'aime bien chez donc Mireille, qui est vraiment une amie, c'est-à-dire que il y a l'ami qui est quand on se voit, on va chez elle à Nantes, etc. Et puis il y a l'éditrice qui est capable de m'engueuler, de se moquer de moi quand j'écris une bêtise, etc. Donc il y a vraiment le travail professionnel d'une part qui est. Voilà, il n'y a plus d'amis, je veux dire. Et puis voilà, donc moi j'aime bien ça. C'est-à-dire que moi ce que j'aime d'un éditeur, c'est qu'il me dise voilà, il faut corriger ceci, cela. Moi je ne veux pas d'un éditeur qui juste prenne mon texte et le publie à ce moment-là. Un imprimeur, ça me suffirait, quoi. Donc moi j'ai besoin de ça. Donc ça, je l'ai avec la Talente. Enfin, je pense que tous ceux qui ont travaillé avec la Talente peuvent dire à peu près la même chose. Donc, c'est pas une réaction que j'ai particulière. C'est c'est ce que fait la Talente avec tous ses auteurs. Ben, je vais pas voulu vous retenir pour aller manger quand même. Moi et puis moi non plus, hein. Merci. Ouais.